Ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, mercredi 8 août 2018, Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir en RDC, Joseph Kabila ne se présentera pas à la présidentielle de décembre, Emmanuel Ramazani Shadary est le candidat de la majorité présidentielle.
Encore que être dauphin ne veut pas dire que demain on sera forcément le président. C'est une bataille qui est devant parce qu'il s'agit d'un processus électoral.
L'ex-première dame en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, est sortie de prison après avoir été amnistiée par le président Alassane Ouattara. Mali, la Cour constitutionnelle confirme les résultats du premier tour de la présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé vont s'affronter au second tour dimanche. Et puis, réaction après l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran avec l'ancien président iranien Abol Hassan Banisadr. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports. Mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre. L'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, sera le porte-drapeau de la coalition au pouvoir. Il a déposé sa candidature aujourd'hui, dernier jour pour le dépôt des dossiers. L'opposition et l'Église catholique appellent à la prudence. Sur place, Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La nouvelle est tombée peu avant 14h heure de Kinshasa. Emmanuel Ramazani Shadary, 57 ans, secrétaire permanent du PPRD, parti présidentiel, est le dauphin de Joseph Kabila et candidat de la coalition au pouvoir à la prochaine présidentielle. Ancien ministre de l'Intérieur et sous les coups des sanctions européennes, c'est lui qui va porter la candidature du Front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre prochain. Il a déposé son dossier de candidature accompagné par tous les cadres de la mouvance présidentielle ce mercredi, peu avant la fermeture des bureaux de la CENI. Au chapitre des réactions, le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UNC de Caméré, l'UDPS de Tshisekedi comme Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi saluent ce qu'ils qualifient de première victoire dans la lutte de l'opposition pour le respect de la Constitution, le fait que Joseph Kabila n'ait pas brigué un troisième mandat consécutif. Le comité laïque de coordination, structure de l'Église catholique à la base des dernières manifestations anti-Kabila, parle de son côté d'une bataille démocratique gagnée, tout en appelant à la prudence. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, seront au second tour de l'élection présidentielle dimanche 12 août. La Cour constitutionnelle malienne a confirmé les résultats du premier tour. Le 29 juillet, Ibeka a obtenu 41,68% des suffrages contre 17,78% pour Soumaïla Cissé. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo est rentrée chez elle après 7 années de détention. Sa libération fait suite à l'amnistie accordée par le président Alassane Ouattara à quelque 800 personnes. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Du monde, beaucoup de monde pour accueillir Simone Gbagbo de l'école de la gendarmerie où elle était en détention, à sa résidence de Cocody en passant par le palais de justice d'Abidjan. Des militants du Front populaire ivoirien, heureux de retrouver l'ex-première dame, la camarade Simone.
Sincèrement, je suis très ému, je suis content de la voir libérée. Il faut dire que le président de la République actuelle, Alassane Ouattara, a fait un grand pas. Ça nous va droit au cœur. Donc nous sommes venus manifester cette joie-là. Vive tout le monde, la Côte d'Ivoire, un peu de joie.
Simone Gbagbo a rendu hommage dans son intervention aux militants du Front populaire ivoirien pour leur mobilisation qui a permis cette amnistie.
Au moment où on s'y attendait le moins, il dit « Simone, tu as quitté ». L'État est militante, levez-vous pour la nouvelle Paris. Et sans arrêt, on est parti.
Simone Gbagbo et 800 autres personnes poursuivies ou condamnées dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011 avaient bénéficié lundi soir d'une amnistie accordée par le président Alassane Ouattara. L'ex-première dame purgeait depuis 2015 une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Cameroun, les évêques demandent une enquête suite au meurtre d'un prêtre fin juillet à Mouyouka, dans le sud-ouest anglophone. La conférence épiscopale dit avoir reçu des photos du corps du prêtre décédé. Elle affirme que le corps du curé de la paroisse de Bomaka a été mutilé. Les évêques ont réitéré leur appel à un dialogue pour résoudre la crise dans les régions anglophones et demandé l'arrêt des violences pour éviter au pays de sombrer dans le chaos. Cameroun toujours, 2 ans après la catastrophe ferroviaire DCK qui avait fait 79 morts. Monsieur Maître Moteng, avocat, dénonce l'attitude hautement dilatoire de Camrail, filiale locale du groupe Bolloré. Le procès contre certains de ses responsables et agents a été une nouvelle fois ajourné. Pour cet avocat, la société Camrail cherche à faire retarder indéfiniment ce procès en tentant de prendre les victimes à l'usure. Nigeria, le président du Sénat réclame l'ouverture d'une enquête après le siège du Parlement par les forces de sécurité. Un incident qu'il a qualifié d'acte lâche visant à le destituer et en préparation depuis des mois. Hier, des hommes armés et cagoulés de la police et de l'agence de renseignement intérieur avaient bloqué durant plusieurs heures l'accès à l'institution dans la capitale fédérale Abuja. La présidence avait dans la foulée annoncé le limogeage du patron des renseignements intérieurs, un proche du chef de l'État, Muhammadu Buhari. Explosion d'une mine artisanale au Kenya, dans le comté de Lamu. 5 soldats ont été tués lorsque leur véhicule a roulé sur l'engin explosif. Et des islamistes somaliens Shebab sont pointés du doigt alors que l'attaque a eu lieu près de la forêt de Boni, sur la route menant à la ville de Bodei. L'opposition zimbabwéenne a officialisé sa volonté de contester devant la justice les résultats de la présidentielle du 30 juillet remportée par Emmerson Mnangagwa, alors qu'un de ses leaders ayant tenté de fuir le pays a été retenu à la frontière zambienne. Nathalie Barge.
Toutes les preuves dont nous avons besoin sont disponibles, a déclaré lors d'une conférence de presse à Harare Tabani Mpofu, avocat du MDC. Le président Emmerson Mnangagwa, déclaré vainqueur dès le premier tour contre Nelson Chamisa, affirme que l'élection a été libre, juste et transparente. L'opposition a jusqu'à vendredi pour déposer son recours. La Cour constitutionnelle aura ensuite 14 jours pour décider de la validité du scrutin. Par ailleurs, dans la matinée, l'opposant Tendai Biti a tenté de demander l'asile politique en Zambie. Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, il demandait l'asile à Lusaka, mais les agents de l'immigration ont reçu l'ordre de le garder à Chirundu, à la frontière. Selon le journal The Chronicle, M. Biti est recherché par la justice pour incitation à la violence. Il avait annoncé avant la proclamation des résultats que Nelson Chamisa avait remporté l'élection, tout en défiant la commission électorale d'annoncer un résultat différent.
Aux Comores, l'opposition dénonce une vague d'arrestations liée au référendum constitutionnel du 30 juillet. Une dizaine d'opposants ont été récemment arrêtés, selon l'opposition, et une dizaine d'autres sont entrés dans la clandestinité. L'ex-président Ahmed Abdallah Sambi est notamment assigné à résidence depuis mai. L'opposition avait boycotté le référendum adopté à une écrasante majorité. La réforme permet au président de l'Union des Comores de briguer 2 mandats consécutifs au lieu d'un seul et supprime les 3 postes de vice-président et la Cour constitutionnelle.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, des centaines de travailleurs agricoles, essentiellement africains, engagés dans la récolte des tomates dans le sud de l'Italie, ont fait grève et manifesté pour réclamer plus de respect après la mort de 16 d'entre eux dans 2 accidents de la route, Ekiabadou.
Samedi et lundi, 2 collisions entre des camions de tomates et des fourgonnettes transportant des ouvriers agricoles étrangers ont fait 16 morts et 4 blessés graves. Ces ouvriers, dont certains sont sénégalais, revenaient d'une dure journée de travail. « Nous ne sommes pas des esclaves, non à l'exploitation », ont scandé les manifestants, partis des champs pour rejoindre la préfecture de Foggia, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. D'après le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, dans la province de Foggia, il y a une criminalité mafieuse. Il a promis de l'éradiquer par tous les moyens légaux. Dans cette région, des milliers d'ouvriers agricoles africains, mais aussi polonais, bulgares ou roumain passent l'été à ramasser les tomates sous un soleil de plomb. Peu d'entre eux bénéficient de bonnes conditions de travail et de rémunération requises par la loi. Beaucoup sont contraints de loger dans des squats ou des bidonvilles et de s'en remettre à de douteux intermédiaires pour trouver du travail dans ces exploitations agricoles.
Concernant l'immigration vers l'Europe, toujours, l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a été autorisée par l'Espagne à faire débarquer au port d'Algeciras 87 migrants secourus le 2 août en Méditerranée. L'Italie qui a interdit l'entrée dans ses ports aux navires qui sillonnent la Méditerranée pour aider les migrants. L'Espagne est devenue cette année la première porte d'entrée en Europe des migrants africains arrivant par la mer à bord d'embarcations de fortune. Reprise des sanctions américaines contre Téhéran, l'Allemagne met en garde les États-Unis contre une déstabilisation du Moyen-Orient. Celui qui espère un changement de régime ne doit pas oublier et qu'il pourrait nous causer des problèmes bien plus importants, souligne le ministre allemand des Affaires étrangères. Un isolement de l'Iran pourrait justement favoriser la montée en puissance des forces fondamentalistes et radicales, a ajouté le ministre social-démocrate. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Cameroun a accordé des exonérations fiscales pour 74 milliards de francs CFA d'investissements projetés dans l'hôtellerie, l'agroalimentaire et l'agroforesterie. La loi révisée en 2017 prévoit des exonérations fiscales aux douanières sur 5 à 10 ans et s'applique durant les phases de démarrage et de production des entreprises bénéficiaires. Le Togo s'est doté d'un plan national de développement pour la période 2018-2022. Les parties prenantes de l'administration publique, des institutions du pays, du secteur privé, de la société civile, des régions et des partenaires techniques et financiers ont contribué à l'élaboration de cette feuille de route. Lomé compte notamment améliorer les infrastructures et les procédures à son port, le seul en eau profonde de la sous-région actuellement. Le président Donald Trump a assuré que la croissance économique des États-Unis pourrait atteindre, voire dépasser prochainement 5%. Monsieur Trump l'a déclaré lors d'un dîner ce mardi avec des dirigeants d'entreprises à Sun Gulf de Bedminster, dans le New Jersey, dans le nord-est des États-Unis.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans et nouvelle lourde défaite pour les Ghanéennes.
4 buts inscrits par les Néerlandaises ont scellé le sort du Ghana pour son deuxième match dans la compétition. Après cette nouvelle défaite, l'équipe est au bord de l'élimination. Avant l'autre match du groupe entre la France et la Nouvelle-Zélande, les Brésiliennes et les Anglaises ont fait match nul un but partout. Défaite du Mexique 2-1 face à la Corée du Nord et demain le Nigeria joue face à Haïti.
Les transferts se poursuivent avant la fin du mercato.
Luka Modric a repris l'entraînement avec le Real Madrid sur fond de rumeurs contradictoires. Le quotidien AS évoque une proposition très importante de l'Inter de Milan, tandis que son concurrent Marca part d'une prolongation de contrat du Croate avec une révision de son salaire à la hausse. Et puis mécontent de sa relation avec José Mourinho, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United. Selon le Daily Mail, Pogba s'est d'ores et déjà mis d'accord sur un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone avec un salaire de 20 millions d'euros annuels, soit le double de ce qu'il touche actuellement. Enfin, en Espagne, Levante a officialisé l'arrivée de Rafael Duamena, auteur d'une saison aboutie du côté de Zurich. 56 matchs, 25 buts. L'attaquant international ghanéen s'est engagé jusqu'en juin 2022. Il rejoint un autre Africain, le Nigérian Simon Moses, qui a signé également hier son contrat.
L'athlétisme kényan en deuil.
Nicholas Bett, champion du monde du 400 mètres haies en 2015 à Pékin, est décédé à l'âge de 28 ans dans un accident de voiture dans l'ouest du pays. La dernière apparition publique de l'athlète date d'il y a quelques jours lors des derniers championnats africains d'athlétisme. C'était au Nigeria. On rappelle que lors des championnats du monde d'athlétisme en 2015 à Pékin, Nicholas Bett était devenu le premier Kenyan à décrocher le titre mondial du 400 mètres haies en établissant au passage un nouveau record national.
Et enfin, tour cycliste du Rwanda.
La quatrième étape entre Musanze et Karanje a été remporté par l'Américain Timothy Rugg qui s'est imposé en solitaire avec 2 minutes et 10 secondes d'avance sur le Rwandais Samuel Akiru-Wizeye. et 2 minutes 24 sur Didier Munyaneza. Samuel Mugisha, le Rwandais, reste en jaune au classement du général. Demain, la cinquième étape de 95 km entre Karonji et Rubavu.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guirier, que vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, les cadres du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir, ont désigné Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat à la présidentielle du 23 décembre. Le président Joseph Kabila ne sera donc pas candidat, comme le prévoit la Constitution. Mais qui a milité pour la désignation de Monsieur Shadary? Eddy Sango a interviewé l'éditeur du journal La Prospérité à Kinshasa, Marcel Ngoyi.
Quand Kabila finalement désigne Shadary, il doit avoir, en plus du fait que Shadary peut avoir certainement des atouts, il peut avoir d'autres raisons tout à fait subjectives qui peuvent sous-tendre sa désignation en qualité de dauphin. Encore que être dauphin ne veut pas dire que demain on sera forcément le président. C'est une bataille qui est devant parce qu'il s'agit d'un processus électoral.
Mais qu'est-ce qui a fait que lui soit désigné par rapport à d'autres noms qu'on a entendus qui ont été proposés au président Joseph Kabila?
Shadary avoir été probablement préparé. Il a été le président du groupe parlementaire PPRD pendant longtemps au Parlement. Il a été le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à un autre moment. Il a été le secrétaire général adjoint du PPRD pendant longtemps. Donc c'est quelqu'un du maniement et donc du point de vue linguistique un peu plus proche du président Kabila. Et donc il peut être quelqu'un de la famille, qui a des affinités un peu plus enracinées que tant d'autres. Il y a des critères qui peuvent être du fait que c'est quelqu'un que l'on connaît bien, dont on maîtrise le caractère. Aussi, c'est quelqu'un qui a dû faire preuve de responsabilité. Il a été gouverneur de province, donc il connaît. Le gouverneur, la plupart qui sont nommés, il a la mainmise, il a la maîtrise des rouages.
Mais qu'est-ce qui a expliqué autant d'hésitations avant la désignation d'un dauphin?
Les hésitations étaient dictées par tout ce qu'il y a eu comme supputation autour du troisième mandat du président Kabila. Vous savez que depuis toujours, le président avait dit un beau jour, il n'y a pas de dauphin, il n'y en aura pas. Mais arriver à se dédire aujourd'hui, après qu'il ait perdu ses anciens policiers qui sont aujourd'hui dans le G7, dans l'ensemble et tout ça, ce n'est pas facile. C'est une décision courageuse qui mérite d'être saluée. Donc des hésitations sont liées justement au fait que le président devait réfléchir mûrement avant de décider. Il a dit qu'il respecterait la Constitution. Cette fois-ci, je crois qu'il s'est soumis à l'exercice.
Beaucoup ont entendu M. Shadary encourager M. le président Joseph Kabila à rester au pouvoir et il est même, M. Shadary, sur la liste des sanctions de l'Union européenne.
En tant que dirigeant d'un parti présidentiel, lui ne pouvait pas forcément avoir un langage qui soit aux antipodes du combat politique de celui qu'il est venu soutenir. Il est de Kabambare, et donc au Maniema, la même province d'origine que la plupart des proches du président Kabila. Mais est-ce que c'est l'unique critère? J'ai dit non. Maintenant qu'il a été désigné, c'est pour qu'il soit élu. S'il est élu, c'est pour la continuité du régime actuel. Mais il faudra que ce régime, s'il veut demeurer, il se réincarne dans une nouvelle vision et qu'il présente cette vision au monde entier et plus particulièrement au peuple congolais.
C'était Marcel Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Mali, le second tour de l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche 12 août. Il opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. 17 des 18 candidats de l'opposition regroupés dans une plateforme continuent de crier à la fraude lors du premier tour. Ils réclament la démission du ministre de l'administration territoriale à 4 jours du scrutin. Yacouba Ouédraogo a joint Shana Tetakiou, directeur de publication du journal du 22 septembre.
L'opposition est en train de chercher des faux fuyants. L'opposition a été battue et elle refuse de reconnaître les résultats. Le peuple malien a fait son choix. L'opposition n'a gagné dans aucune région. Même dans la région natale de Soumaïla Cissé, celui-ci a été battu. Ibeka a gagné à Bamako.
tous les leaders africains, avant d'accéder à la magistrature suprême, essaient de conquérir la capitale. Cette opposition-là a été incapable de conquérir la capitale du Mali.
L'opposition est restée dans une logique d'accusation de fraude après la proclamation des résultats du premier tour. Comment aborder le second tour avec de telles suspicions de fraude?
J'ai l'impression que l'opposition est dans une logique de boycott. Elle est pleine de contradictions. Elle dit qu'elle ne reconnaît pas la cour. Elle recuse 6 membres sur les 9. Pourtant, cette même opposition a saisi la cour. Elle a peur d'aller aux urnes. Elle est en train de chercher des alibis pour ne pas aller au second tour.
Le second tour va se jouer sur les coalitions. Actuellement, il y a une coalition de 18 partis autour de Soumaïla Cissé pour le second tour. Pensez-vous qu'il puisse refaire son retard?
Ce n'est pas possible. Même cette coalition-là attendait l'arrêt de la cour. Après l'arrêt de la cour, il y a beaucoup de gens qui vont s'éloigner de Soumaïla Cissé. Ils ne seront plus dans la contestation. J'en connais, mais je ne veux pas citer. J'attends qu'eux-mêmes se prononcent.
Il y a un analyste malien qui disait ceci. Il y a un front uni pour contester les résultats. Il n'y a pas de front uni pour donner des voix à Soumaïla Cissé. Êtes-vous d'avis?
Absolument. C'est un avis que je partage. Regardez autour de Soumaïla, les anciens compagnons d'Ibeka. Maître Mohamed Ali Bachili, qui a fait 5 ans avec Ibeka. Quelle crédibilité aujourd'hui. Regardez Maître Moutada Pal. Regardez Maître Choguel Maïga. C'est des gens qui ne peuvent pas mobiliser. Ce sont des gens qui veulent une nouvelle virginité politique, se servir de Soumaïla pour faire le chantage, pour que le pouvoir puisse les démarcher. C'est ça aussi la réalité.
Le premier tour n'a pas pu se tenir dans 871 bureaux. Pensez-vous que ces électeurs potentiels puissent voter lors du second tour?
C'est ce qui est souhaitable. Mais il y a une réalité qui est là au Mali. Tout le monde sait qu'il y a la question du terrorisme. Dans le centre où certains bureaux, certaines localités n'ont pas pu voter parce que nous sommes en saison pluvieuse. Les routes sont impraticables. Et les terroristes ont brûlé certains bureaux dans la région de Tombouctou. Ils ont empêché certains d'aller voter. Quelle que soit la volonté du gouvernement, l'impraticabilité des routes, le gouvernement ne peut pas le résoudre entre les deux tours.
Shana Takiou, directeur de publication du journal du 22 septembre.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, coup de projecteur sur la Côte d'Ivoire. À 2 ans de la fin de son mandat, le président Alassane Ouattara a annoncé une amnistie en faveur d'environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame, Simone Gbagbo. Réforme de la commission électorale, lancement d'un nouveau parti unifié, vœu de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Pourquoi toutes ces annonces? Quel chemin vers la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé ce mercredi à l'inauguration du palais des sports Dakar Arena, un complexe conçu pour accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs et des événements tels que le basket, la boxe, la lutte et le tennis, mais aussi des activités culturelles. Cette arène ultramoderne est l'une des infrastructures phares de Dianine Dio, présentée comme la ville nouvelle du Sénégal. Cette ville à 30 km de Dakar commence donc à prendre forme. Le projet fait toutefois l'objet de certaines critiques, comme l'a constaté l'envoyé spécial de VOA Afrique à Dakar, Jacques Aristide.
Une ville qui émerge de terre, des immeubles flambant neufs et d'autres toujours en chantier. Bienvenue à Diamnia Diou, le projet pharaonique du Sénégal, au coût de développement estimé à plus de 2 milliards de dollars. Le Sénégal, pourtant l'un des pays les plus pauvres de la planète. Logements, espaces verts, quartiers administratifs, zones industrielles, universités, centres de recherche et infrastructures sportives. L'objectif est de désengorger Dakar, la capitale qui abrite 3 des 15 millions d'habitants du pays. Sédou Sissal est le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamnia Diou et du Lac Rose.
C'est un projet qui est inscrit dans la dynamique du plan Sénégal émergent pour créer beaucoup plus de richesses et d'emplois dans l'agglomération de Dakar, mais c'est un projet dont les effets vont se diffuser sur l'ensemble du Sénégal. C'est un projet fondé sur des fonctionnalités économiques, l'événementiel, parce que nous avons constaté depuis quelque temps, le tourisme d'affaires connaît une montée en puissance. le président de la République envisage de faire de Dakar un hub sous-régional et même international.
Le déménagement des départements gouvernementaux a déjà démarré. La cité ministérielle a accueilli en juillet dernier son premier locataire, le ministère de l'Agriculture. Pendamba Ouad, de ce ministère.
Aujourd'hui, pour quitter chez moi et venir ici au pôle de Diamniadio, j'ai fait pratiquement 20 minutes. Et là, vraiment, c'est un gain de temps énorme. Et également, ici, au niveau du bureau, nous avons trouvé un lien, un cadre idéal pour le travail.
Le méga-projet n'est toutefois pas sans critique. Pour des experts, les logements sociaux qu'il inclut ne seront pas à la portée des personnes touchant le salaire minimum. Le village de Denimaligay est dépourvu d'infrastructures de base. Ses habitants se disent affectés par la ville nouvelle. Medoun Diop, président du conseil de quartier.
Nous, on n'est pas content du plan Sénégal émergent, mais au moins qu'ils nous respectent. Respectez-nous, c'est quoi? C'est communiquer avec nous, c'est de nous informer. Vous venez prendre nos terres comme ça, sans dédommagement aussi, hein, sans dédommagement. Ils ont tout juste dédommagé l'agriculture, pas la terre. Parce que si on parle, on nous dit que c'est le domaine national.
En dépit de toutes les critiques, Diamniadio continue de prendre forme. Les deux autres phases, avec des infrastructures tout aussi ambitieuses, devront être complétées d'ici à l'an 2035. De la nouvelle ville de Diamniadio au Sénégal, Jacques Aristide, VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les réactions se poursuivent après l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran. L'Union européenne et la Russie, entre autres, ont dénoncé la mesure. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est dit contraint d'appliquer à contre-cœur les sanctions américaines contre son grand voisin iranien, arguant que son pays avait lui-même souffert de 12 ans d'embargo international. Pour une réaction, Abdourahmane Dia a joint en France l'ancien président iranien Abolhassan Banisadr.
Non, absolument pas. Parce que les États-Unis y a signé un accord, l'État doit respecter sa signature, même si je n'étais pas d'accord avec cet accord.
Pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec l'accord?
C'est un accord par lequel l'Iran a été soumis à 105 engagements. Les États-Unis, même pas un engagement. Donc c'était une soumission, c'était pas un accord, c'était une soumission. Donc je n'étais pas d'accord, malheureusement. Cela, aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate que un président a été remplacé par un autre président et le nouveau, il dit que ça ne suffit pas, il faut encore plus.
Vous voulez parler du président Trump?
Voilà. Pour obtenir ce qu'il veut imposer à l'Iran, c'est les moyens, c'est les sanctions. Qui sont victimes de ces sanctions? Le peuple iranien. Il le dit clairement. Par les sanctions les plus sévères, la situation du peuple devient grave. Et ce peuple se voit obligé de se lever contre le régime.
Monsieur le Président, l'administration Trump estime que le régime iranien pourrait ne pas respecter les termes de l'accord et que c'est pour cela que Washington s'est retiré de l'accord sur le nucléaire de 2015. Vous pensez que le programme qui a été mis en place permettait un contrôle du programme nucléaire de Téhéran?
D'abord, jusqu'à aujourd'hui, l'Agence internationale d'énergie atomique dit très clairement que l'Iran a respecté cet engagement. Deuxièmement, M. Trump dit qu'après la fin de l'accord, il n'y a pas une garantie que l'Iran ne recommencerait pas son programme de produire armes atomiques. C'est faux.
Si les sanctions se poursuivent, est-ce que cela peut pousser les populations à sortir dans la rue?
Si vous voulez que le peuple iranien demande ses droits, qu'il agisse pour mettre fin à la dictature des mollahs et que la démocratie se rétablisse, laissez-le tranquille.
L'ancien président iranien Abolhassan Banisadr. C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.